Les chiens. Enfin, on démarre. Heureusement que j'ai pas de chauffeur dans ma famille. Pas de fils, pas de cousin. Rien qui ressemble à un pauvre type qui conduirait tout le monde partout et se ferait payer pour ça. Nous, on a des boulots honnêtes. Parce qu'il y a peut-être des meurtriers dans ce bus. Qui sait? Et personne ne fait rien. Surtout pas le conducteur, c'est plus facile. Le conducteur conduit en essayant de ne pas être en retard. Un meurtrier de plus ou de moins, ça ne va pas changer sa trajectoire. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? La jeunette, au bas vert, là-bas. Pas grand-chose à ce que je vois. Et c'est la même chose pour tout le monde. C'est plus simple de me regarder de travers en faisant semblant de ne pas avoir entendu un seul mot de ce que je viens de dire. Alors, qui est coupable? Où est le meurtrier? Qu'il se dénonce et qu'on en finisse. Non, mais franchement. Vous n'allez pas me faire croire que le plus grand crime jamais commis dans un de ces bus est d'avoir laissé un chien s'asseoir sur un siège pendant qu'on avait le dos tourné. C'est fou tout de même, parce que d'habitude, les hommes qui travaillent sur ce tronçon sont un peu moins butés que les autres. Ils vont même jusqu'à être gentils avec les poussins. Hein, ma belle? Ça fait bientôt 30 ans que je prends soin de mes chiens, et j'ai toujours eu des spécimens très propres. Ça s'appelle du dressage, monsieur, dame. De l'éducation. Mais j'ai l'impression que, par ici, les humains sont bien moins élevés que les animaux. Je dis ça sans offense. C'est pas donné à tout le monde d'avoir de la discipline. Et puis, c'est rare de trouver des personnes qui ont un cœur assez grand pour aimer humains et animaux tous ensemble. Enfin, c'est une autre histoire. Mais je ne comprends tout de même pas pourquoi un petit poussin comme celui-ci peut être considéré comme un criminel. Je paie toujours sa place, vous savez. Même si je le garde sur mes genoux, je paie sa place. Il a le droit d'être là, autant que tout le monde. Il est trop grand pour que je le place dans un sac. Et si j'ai déjà quelque chose sur mes genoux, je lui fais une place sur le siège d'à côté. Mais avant, je sors de ma poche un cornet plastique que je déplie pour l'hygiène. Le dressage suffit dans mon cas. Mais j'ai entendu quelques malheureuses histoires d'incontinence. Ma foi, ce sont des choses qui arrivent. Voilà, ça doit être ça, le traumatisme du chauffeur. L'incontinence d'un cabot choisi au hasard d'une rue. Bon, là, j'admets qu'il n'y a rien de pire que ces bâtards sans dressage. Tous des incontinents. Mais, d'un autre côté, c'est pas vraiment leur faute non plus. C'est les hommes qui les abandonnent, pour commencer. Moi, je suis fidèle, monsieur, et après, on vient me faire des remarques désagréables. C'est le monde à l'envers. Viens, mon poussin, on descend. Eh bien, le bonsoir.
Danse papillon. Je ne vois pas ses mains. Le bout de ses pieds est comme effacé. Elle s'est assoupie. Quelques boucles sur son front. Une mèche insouciante au-dessus de l'oreille droite. Elle porte des chaussettes roulées aux chevilles. Je la regardais il y a quelques minutes. Elle tournait, légère, sur la scène. Elle était sur le point de s'envoler. La salle était suspendue à chacun de ses mouvements, happée par sa grâce, par l'illusion d'un sourire. À présent, son visage est dénué d'expression. Mais le repos de ses traits ne fait pas obstacle à sa beauté. Et les yeux, ses yeux, fermés, ils sont inoffensifs. Je l'observe, caché derrière un paravent, par le truchement d'un miroir. Elle est sortie de sous les projecteurs. Elle s'est levée au creux de sa loge, sur le sol. Elle a fait de son bras un coussin. Son corps ensommeillé se délie, donne à voir, en filigrane, un entrechat furtif, un ultime soubresaut. La ligne des sourcils, droite, presque en équilibre, surplombe son nez aquilin. Elle est sortie de la lumière des autres pour se perdre dans sa pénombre. Elle cherche le feu, l'authentique lueur. Elle s'allonge. D'abord, elle étend son corps, l'étire, le raidit. Elle veut se libérer de cette lumière qui n'était pas la sienne. Elle ne respire plus. Elle a peur de respirer à nouveau l'air qui lui fait mal, l'air qui claque dans sa gorge comme un fouet. Elle ne respire plus. Encore 3, 2, 1 seconde. Puis elle laisse aller. Elle laisse filer l'air en elle. Elle l'accueille en se recroquevillant. Elle porte son menton entre ses genoux, les bras étroitement enlacés sur ses jambes diaphanes. Elle respire l'air du miracle. La pénombre se fait plus douce, presque onctueuse. Elle desserre son étreinte, bouge son dos comme une herbe, les genoux s'écartent doucement. Elle enfouit un peu plus son visage au creux de son bras. Lueur, elle a souri. Ses yeux bougent sous ses paupières closes. Je les vois rouler d'un extrême à l'autre. Elle s'étend à nouveau, mais cette fois-ci d'une autre tension. Son dos en arc-en-ciel, entre sa tête toujours au creux du bras et ses pointes qui vibrent sur le sol. Elle sourit toujours, passant légèrement sa lèvre inférieure. Elle voudrait aspirer plus d'air à présent. Elle voudrait suspendre cet instant de son corps en état de grâce, de son corps intime qu'elle retrouve enfin, qu'elle redécouvre, enfouie sous l'élégance altière de son corps public. Je ne vois pas ses mains. Ses pieds sont comme effacés. Soudain, son corps s'élance, comme un ruban de soie blanche que l'on jetterait au ciel. Je me cache vivement, de peur qu'elle ne découvre que je l'observe. Pas un bruit. Une minute s'écoule. J'ose un regard dans sa direction. La loge est déserte. Je m'empresse de sortir en effleurant distraitement sur la coupole de marbre un bouquet de roses rouges, autour duquel volette un papillon blanc.